Il ne servait à rien de chercher à cacher les crimes qui avaient été commis, car s'il s'était passé encore autre chose, les légats pontificaux eussent pensé à un complot dirigé contre eux. Il ne restait donc à choisir qu'entre deux solutions. Ou Guillaume découvrait l'assassin avant l'arrivée de la légation, et ici l'abbé le regarda fixement comme pour lui reprocher de ne pas l'avoir encore fait, ou bien il fallait avertir loyalement le représentant du pape de ce qui se passait et demander sa collaboration pour que l'abbaye fût placée sous surveillance redoublée durant le cours des travaux. Chose qui déplaisait à l'abbé, car cela signifiait renoncer à une partie de sa souveraineté et placer ses moines même sous le contrôle des Français. Mais on ne pouvait pas prendre de risques. Guillaume et l'abbé étaient tous deux contrariés par la tournure que prenaient les choses, mais ils avaient peu d'alternatives. Ils se promirent par conséquent d'adopter une décision définitive d'ici le lendemain. En attendant, il ne restait plus qu'à se confier à la miséricorde divine et à la sagacité de Guillaume. « Je ferai l'impossible, votre sublimité, » dit Guillaume. « Néanmoins, je ne vois pas comment l'affaire peut vraiment compromettre la rencontre. Même le représentant pontifical voudra bien comprendre qu'il y a une différence entre l'œuvre d'un fou ou d'un sanguinaire, ou peut-être seulement d'une âme égarée, et les graves problèmes que des hommes probes viendront discuter. « Vous croyez ?» demanda l'abbé en regardant fixement Guillaume. « N'oubliez pas que les Avignonnais savent qu'ils rencontrent des minorités, et donc des personnes périlleusement proches des fraticelles, et d'autres encore plus insensés que les fraticelles, des hérétiques dangereux qui se sont souillés de crimes. » Et ici l'abbé baissa la voix. « En regard desquels les faits du reste horribles qui sont arrivés en ce lieu, pâlissent comme brume au soleil. « Il ne s'agit pas de la même chose, » s'exclama Guillaume avec vivacité. « Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les minorites du chapitre de Pérouse et quelques bandes d'hérétiques qui ont compris de travers le message de l'Évangile, transformant la lutte contre les richesses en une série de vengeances privées ou de folies sanguinaires. À peine quelques années sont passées depuis que, à quelques milles tout juste d'ici, une de ces bandes, comme vous les appelez, a mis à feu et à sang les terres de l'évêque de Verseilles et les montagnes de la contrée de Novare, » dit l'abbé d'un ton sec. « Vous parlez de Fra Dolcino et des apostoliques, des pseudo-apôtres, » corrigea l'abbé. Et encore une fois, j'entendais citer Fra Dolcino et les pseudo-apôtres, et encore une fois d'un ton circonspect et presque avec une nuance de terreur. « Des pseudo-apôtres, » admit volontiers Guillaume. « Mais eux, ils n'avaient rien à voir avec les minorites, dont ils professaient la même révérence pour Joachim de Calabre, » répliqua l'abbé, « et vous pouvez le demander à votre frère Hubertin. Je fais relever à votre sublimité que c'est maintenant votre frère à vous, » dit Guillaume avec un sourire et une sorte de courbette, comme pour complimenter l'abbé de l'acquisition que son ordre avait faite en accueillant un homme d'une telle réputation. « je le sais, » sourit l'abbé. Et vous savez avec quelle sollicitude fraternelle notre ordre a accueilli les spirituels quand ils ont encouru les colères du pape. Je ne parle pas seulement d'Hubertin, mais aussi de nombreux autres frères plus humbles, dont on ne sait pas grand-chose et dont on devrait peut-être savoir davantage. Car il nous est arrivé d'accueillir des transfuges qui se sont présentés vêtus du froc des minorites, et par la suite j'ai appris que les vicissitudes de leur vie les avaient conduits un certain temps fort près des Dolciniens. « Même ici ?» demanda Guillaume. « Même ici. Je suis en train de vous révéler quelque chose dont en vérité je sais bien peu et en tout cas pas assez pour formuler des accusations. Mais vu que vous enquêtez sur la vie de cette abbaye, il est bon que vous aussi soyez au courant. Je vous dirai alors que je soupçonne, attention, je soupçonne sur la base de ce que j'ai entendu ou deviné, qu'il y a eu un moment plutôt obscur dans la vie de notre scélérier qui précisément arriva ici il y a des années à la suite de l'exode des minorites. Le scélérier, Remigio de Varagine, un dolcinien, il m'a l'air de l'être le plus doux et en tout cas le moins soucieux de Madone Pauvreté que j'ai jamais rencontré, dit Guillaume. Et de fait, je ne puis rien dire contre lui, et je me prévaux de ses bons services, pour lesquels la communauté entière lui est reconnaissante. Cela dit, pour vous faire comprendre comme il est facile de trouver des affinités entre un frère et un fraticelle. Encore une fois, votre grandeur est injuste, s'il m'est permis de le dire, interrompit Guillaume. Nous parlions des Dolciniens, pas des Fraticelles, sur lesquels on pourra gloser à l'infini, sans même savoir de qui on parle, tant il y a d'espèces, mais pas les taxés de sanguinaires. Au maximum, on pourra leur reprocher de mettre en pratique, sans trop de bon sens, ce que les spirituels ont prêché avec une plus grande mesure et animé par un véritable amour de Dieu. Et en cela, je conviens qu'il existe une démarcation fragile entre les uns et les autres. « Mais les Fraticelles sont des hérétiques !» interrompit sèchement l'abbé. « Ils ne se bornent pas à soutenir la pauvreté de Christ et des apôtres, doctrine qui, même si je ne suis pas enclin à la partager, peut être utilement opposée à l'arrogance avignonnaise. Les Fraticelles tirent d'une telle doctrine un syllogisme pratique. Ils en affairent un droit à la révolte, au saccage, à la perversion des mœurs. Mais quels Fraticelles ? Tous, en général. Vous le savez qu'ils se sont souillés de crimes abominables, qu'ils ne reconnaissent pas le mariage, qu'ils nient l'enfer, qu'ils commettent la sodomie, qu'ils embrassent l'hérésie bogomile de l'horrible Bulgarie et de l'horrible Drigonti. « Je vous en prie, dit Guillaume, ne confondez pas des choses différentes. Vous parlez comme si Fraticelles, Patarins, Vaudois, Cathares, et parmi ces derniers bogomile de Bulgarie et hérétiques de Dragovitsa, c'était du pareil au même. Ça l'est, coupa l'abbé. C'est du pareil au même, parce qu'ils sont hérétiques et parce qu'ils mettent en danger l'ordre même du monde civil, l'ordre de l'Empire aussi, que vous semblez appeler de vos vœux. Il y a 100 années et plus, les disciples d'Arnaud de Brescia incendièrent les demeures des nobles et des cardinaux, et ce furent là les fruits de l'hérésie lombarde des Patarins. Je sais des histoires terribles sur ces hérétiques, et je l'ai lu dans Césaire de Heisterbach. À Vérone, le chanoine de Saint-Guédéon, Évrard, remarqua un beau jour que celui qui l'hébergeait sortait chaque nuit de chez lui en compagnie de sa femme et de sa fille. Il interrogea je ne sais qui des trois pour savoir où ils allaient et ce qu'ils faisaient. « Viens, et tu verras, lui fut-il répondu, et il les suivit dans une habitation souterraine très vaste où se trouvaient rassemblées des personnes des deux sexes. Un hérésiarque, alors que tout le monde faisait silence, tint un discours plein de jurons dans le but de corrompre leur vie et leurs mœurs. Puis, une fois le cierge soufflé, chacun se jeta sur sa voisine, sans faire de différence entre l'épouse légitime et la fille nubile, entre la veuve et la vierge, entre la maîtresse et la servante, ni, ce qui était pis, que le Seigneur me pardonne au moment où je dis de si horribles choses, entre sa propre fille et sa propre sœur. Évrard, à ce spectacle, en jeune insouciant et luxurieux qu'il était, se faisant passer pour un disciple, aborda, je ne sais plus très bien, la fille de son hôte ou une autre fillette, et après que fut éteint le cierge, pécha avec elle. Il fit cela, hélas, pendant plus d'un an. Et à la fin, le maître dit que ce jeune homme fréquentait avec tant de profit leur séance qu'il serait bientôt en mesure d'instruire les néophytes. À ce point-là, Évrard comprit dans quel abîme il avait chu, et il parvint à fuir leur séduction en arguant qu'il avait fréquenté cette maison non point parce qu'il était attiré par l'hérésie, mais parce qu'il était attiré par les jeunes filles. Ils le chassèrent. Mais telles sont, vous le voyez, la loi et la vie des hérétiques, patarins, cathares, joachimites, spirituels de tout acabit. Et il n'y a pas de quoi s'étonner. Ils ne croient pas en la résurrection de la chair, ni à l'enfer comme châtiment des méchants, et jugent pouvoir faire impunément n'importe quoi. Ils se disent de fait cataroïs, c'est-à-dire purs. « Ah bon ?» dit Guillaume. Vous vivez isolé dans cette splendide et sainte abbaye, loin des infamies du monde. La vie dans les villes est beaucoup plus complexe que vous ne croyez, et il y a des degrés, vous le savez, dans l'erreur aussi et dans le mal. Lot fut beaucoup moins pécheur que ses concitoyens qui conçurent des pensées immondes en regard des anges envoyés par Dieu, et la trahison de Pierre ne fut rien par rapport à la trahison de Judas. De fait, il a été pardonné à l'un et pas à l'autre. Vous ne pouvez pas mettre dans le même panier patarins et cathares. Les patarins sont un mouvement de réforme des mœurs à l'intérieur même des lois de notre Sainte Mère l'Église. Ils voulurent simplement améliorer le mode de vie des ecclésiastiques. En soutenant qu'on ne doit pas recevoir de sacrement des mains de prêtres impurs. Et ils eurent tort, mais ce fut leur unique erreur de doctrine. Ils ne se proposèrent jamais d'altérer la loi de Dieu. Mais la prédication patharine d'Arnaud de Brescia à Rome, il y a plus de 200 ans, poussa la tourbe des vilains à incendier les demeures des nobles et des cardinaux. Arnaud chercha à entraîner dans son mouvement de réforme les magistrats de la ville. Ils ne le suivirent pas et il trouva approbation parmi la tourbe de pauvres et de déshérités. Il ne fut pas responsable de l'énergie et de la rage avec lesquelles ces derniers répondirent à ses appels pour une cité moins corrompue. La ville est toujours corrompue. La ville est le lieu où vit aujourd'hui le peuple de Dieu, dont vous êtes, dont nous sommes les bergers. C'est le lieu de scandale où le riche prélat prêche la vertu au peuple pauvre et affamé. Les désordres des patharins naissent de cette situation. Ils sont tristes, ils ne sont pas incompréhensibles. Les cathares sont autre chose. C'est une hérésie orientale, en dehors de la doctrine de l'Église. J'ignore s'ils commettent vraiment ou ont commis les crimes qu'on leur impute. Je sais qu'ils refusent le mariage, qu'ils nient l'enfer. Je me demande si beaucoup des actes qu'ils n'ont pas commis ne leur ont pas été attribués rien qu'en vertu des idées, certes exécrables, qu'ils ont soutenues. Et c'est vous qui me dites que les cathares ne se sont pas mêlés aux patharins et que les uns et les autres ne sont pas uniquement deux des faces innombrables de la même manifestation démoniaque. Je dis que nombre de ces hérésies, indépendamment des doctrines qu'elles soutiennent, s'implantent avec succès chez les gens simples, parce qu'elles leur suggèrent la possibilité d'une vie différente. Je dis que très souvent les simples ne savent pas grand-chose en matière de doctrine. Je dis qu'il est souvent arrivé que des tourbes de simples aient confondu la prédication cathare avec celle des patharins et celle-ci en général avec celle des spirituels. La vie des simples, à bon, n'est pas éclairée par la sapience et par le sens vigilant des distinctions qui fait de nous des sages. Et elle est obsédée par la maladie, par la pauvreté, rendue balbutiante par ignorance. Souvent, pour main d'entre eux, l'adhésion à un groupe hérétique n'est qu'un moyen comme un autre de crier son propre désespoir. On peut brûler la maison d'un cardinal, soit parce qu'on veut perfectionner la vie du clergé, soit parce qu'on juge que l'enfer qu'il prêche n'existe pas. On le fait toujours parce que l'enfer terrestre existe, où vit le troupeau dont nous sommes les pasteurs. Mais vous savez fort bien que, de même qu'eux ne distinguent pas entre église bulgare et disciples du prêtre Liprando, souvent aussi les autorités impériales et leurs partisans ne distinguèrent pas entre spirituels et hérétiques. Plus d'une fois, des groupes gibelins, pour battre leur adversaire, soutinrent parmi le peuple des tendances cathares. À mon avis, ils firent mal. Mais ce que je sais maintenant, c'est que les mêmes groupes, souvent, pour se débarrasser de ces inquiets et dangereux adversaires trop simples, attribuèrent aux uns les hérésies des autres et poussèrent tout cet humble monde sur le bûcher. J'ai vu, je vous le jure, à bon, j'ai de mes yeux vu des hommes de vie vertueuse, sincèrement partisans de la pauvreté et de la chasteté, mais ennemis des évêques, que les évêques poussèrent dans l'étau du bras séculier, que ce dernier fut au service de l'Empire ou des cités libres, en les accusant de promiscuité sexuelle, sodomie, pratiques abominables, dont peut-être d'autres, mais pas eux, s'étaient rendus coupables. Les simples sont de la chair à boucher, à utiliser quand ils servent à mettre en crise le pouvoir adverse et à sacrifier quand ils ne servent plus. « Donc, » dit l'abbé avec une malice évidente, « Fra Dolcino et ses énergumènes et Gérard Segalelli et ses ignobles assassins furent-ils de méchants cathares ou des fraticelles vertueux, des bogomiles sodomites ou des patharins réformateurs? Voulez-vous bien me dire alors, Guillaume, vous qui savez tout sur les hérétiques, au point de sembler l'un des leurs, où se trouve la vérité? Nulle part, parfois, dit Guillaume avec tristesse. Vous voyez que vous aussi, vous ne savez plus distinguer entre hérétique et hérétique. Moi, j'ai au moins une règle. Je sais que les hérétiques sont ceux qui mettent en danger l'ordre qui régit le peuple de Dieu, et je défends l'Empire parce qu'il me garantit cet ordre. Je combats le pape parce qu'il est en train de remettre le pouvoir spirituel aux évêques des villes, qui s'allient aux marchands et aux corporations, et ils ne sauront pas maintenir cet ordre. Nous, nous l'avons maintenu pendant des siècles. Quant aux hérétiques, j'ai aussi une règle, et elle se résume dans la réponse que donna Arnaud Amalric, abbé de Citeaux, à qui lui demandait ce qu'il fallait faire des citadins de Béziers, ville soupçonnée d'hérésie. « Tuez-les tous !» Dieu reconnaîtra les siens. Guillaume baissa les yeux et resta un certain temps silencieux. Puis il dit « La ville de Béziers fut prise, et les nôtres ne regardèrent ni à la dignité, ni au sexe, ni à l'âge, et presque 20 000 hommes furent passés au fil de l'épée. Le massacre ainsi fait, la ville fut saccagée et livrée aux flammes. Même une guerre sainte est une guerre. Même une guerre sainte est une guerre. C'est peut-être pour cela qu'il ne devrait pas y avoir de guerre sainte. Mais que dis-je ? Je suis ici pour soutenir les droits de Louis, qui pourtant met à feu et à sang l'Italie. Je me trouve moi aussi pris dans un jeu d'étranges alliances. Étrange alliance des spirituels avec l'Empire, étrange celle de l'Empire avec Marsile, qui demande la souveraineté pour le peuple, et étrange l'alliance entre nous deux, si différent de langage et de tradition. Mais nous avons deux tâches en commun. Le succès de la rencontre et la découverte d'un assassin. Efforçons-nous de procéder en paix. » L'abbé ouvrit les bras. « Donnez-moi le baiser de la paix, frère Guillaume. Avec un homme de votre savoir, nous pourrions discuter longuement sur de subtiles questions de théologie et de morale, mais nous ne devons pas céder au goût de la dispute comme font les maîtres de Paris. C'est vrai, nous avons une tâche importante qui nous attend et nous devons procéder d'un commun accord. Si j'ai parlé de ces choses, c'est parce que je crois qu'il y a un rapport, vous comprenez, un rapport possible, ou encore que d'autres peuvent mettre en rapport les crimes qui ont eu lieu ici et les thèses de vos frères. C'est pour cela que je vous ai averti, c'est pour cela que nous devons prévenir tout soupçon ou insinuation de la part des Avignonnais. Ne devrais-je pas supposer que votre sublimité m'a suggéré aussi une piste pour mon enquête ? Pensez-vous qu'à l'origine des récents événements, il puisse y avoir quelque sombre histoire qui remonte au passé hérétique de quelques moines ? L'abbé se tut un instant en regardant Guillaume sans qu'aucune expression transparût sur son visage. Puis il dit « Dans cette triste affaire, l'inquisiteur, c'est vous. Il vous revient d'être soupçonneux et même de risquer un soupçon injuste. Moi, je ne suis ici que le père commun. Et j'ajoute, si j'avais su que le passé d'un de mes moines prêta à de véritables soupçons, j'eusse déjà procédé moi-même au déracinement de la malplante. Ce que je sais, vous le savez. Ce que je ne sais pas, attend comme de juste la lumière de votre sagacité. Mais dans tous les cas, informez-en toujours et avant tout moi-même. » Il salua et sortit de l'église. L'histoire se complique de plus en plus, mon cher Atzo, dit Guillaume, et son visage s'obscurcit. Nous courons derrière un manuscrit, nous nous intéressons aux diatribes de certains moines trop curieux et à l'histoire d'autres moines trop luxurieux, et voilà que se profile, avec toujours plus d'insistance, une autre piste, toute différente. Le Célérier, donc, et avec le Célérier est arrivé ici cet étrange animal de Salvator. Mais il est temps d'aller nous reposer, car nous avons projeté de rester éveillés durant la nuit. Alors vous vous proposez encore de pénétrer dans la bibliothèque cette nuit ? Vous n'abandonnez pas cette première piste ? Pas du tout. Et puis, qui a dit qu'il s'agissait de deux pistes différentes ? Et enfin, cette histoire du Célérier pourrait n'être qu'un soupçon de l'abbé. Il prit la direction de l'hôtellerie. Arrivé sur le seuil, il s'arrêta et parla comme s'il continuait son précédent discours. Au fond, l'abbé m'a demandé d'enquêter sur la mort d'Adelme quand il pensait que quelque chose de louche se passait entre ces jeunes moines. Mais à présent, la mort de Venantius fait naître d'autres soupçons. Peut-être l'abbé a-t-il eu l'intuition que la clé du mystère se trouve dans la bibliothèque. Et dans cette direction-là, il ne veut pas que je pousse l'enquête. C'est alors qu'il m'offrirait la piste du cellérier pour détourner mon attention de l'édifice. Mais pourquoi ne devrait-il pas vouloir que... Ne pose pas trop de questions. L'abbé m'a signifié dès le début que la bibliothèque est intouchable. Il aura ses raisons. Il se pourrait que lui aussi soit mêlé à quelque histoire qu'il ne pensait pas pouvoir mettre en rapport avec la mort d'Adèle, et à présent, il se rend compte que le scandale fait tache d'huile et peut le compromettre lui aussi. Et il ne veut pas qu'on découvre la vérité, ou du moins, il ne veut pas que je la découvre moi. Mais alors, nous vivons dans un endroit abandonné de Dieu, dis-je abattu. Tu en as trouvé, toi, des endroits où Dieu se fût senti à son aise ? Me demanda Guillaume en me toisant du haut de sa taille. Et il m'envoya me reposer. Tandis que je me couchais, je conclus que mon père n'aurait pas dû m'expédier de par le monde, qui s'avérait plus compliqué que je ne pensais. J'étais en train d'apprendre trop de choses à la fois. « Salvame ab ore leonis », priai-je en m'endormant.